Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio Kapi pour terminer cette journée bien informée. Je suis Gisèle Cage, très heureuse de vous retrouver. L'essentiel de l'actualité, les événements qui font la une, les voix qui éclairent l'information et les témoignages qui la racontent. Bienvenue dans le journal de 18h sur Radio Kapi. Voici le principal titre. Ituri, l'offensive de la peur. Au moins 32 civils tués en deux jours à Mombasa. Entre massacres, enlèvements et déplacements de population, les ADF continuent de semer la peur dans l'est du pays. Quand le voyage vire au cauchemar sur le lac Kivu, à l'aube de ces samedis, des coups de feu éclatent à bord du bateau La Main du Ciel en route vers Bukavu. Un passager perd la vie, trois autres sont blessés. La RDC peut-elle se passer de l'aide extérieure? L'analyse de Tina Moula, expert en développement durable, auteur de l'ouvrage « L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique », exemple de la RDC et invité de la rédaction en fin de journal. Des villages abandonnés, des familles en fuite et la peur qui s'installe en Ituri. Les rebelles ADF ont encore frappé. Au moins 32 civils ont été tués et plusieurs autres enlevés ces deux derniers jours dans les localités de Diapanda, Bela et Lukaya en territoire de Mombasa. Ces attaques provoquent de nouveaux déplacements des populations alors que les assaillants poursuivent leur progression dans la région au sud du territoire du Rumu vers Tchabi, Lombo. Des ADF continuent également de planer. Face à cette escalade de violence, la société civile appelle les autorités à renforcer la riposte militaire. Les précisions d'Isaac Remoyope.
La dernière attaque des rebelles ADF a été signalée hier à Lukaya où 7 personnes ont été tuées. Leurs corps ont été retrouvés après l'assaut tandis que plusieurs autres habitants ont été pris en otage. Selon la société civile du Congo, ce bilan reste provisoire. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles autres victimes. La veille, les mêmes assaillants avaient attaqué le village d'Ndiapanda Bela où 25 civils ont été tués. D'autres habitants ont été amenés de force en brousse pour transporter les bitins des rebelles. Selon la société civile du Congo, les ADF se dirigeraient désormais vers Makoumo, où de nombreux habitants commencent à fuir. Un climat de psychose est également observé à Maloulou dans les territoires voisins d'Irumu. Les acteurs de la société civile de Mombasa demandent au gouvernement de renforcer la présence des forces armées et de leur fournir les moyens nécessaires pour neutraliser les ADF. Ils rappellent que ce groupe armé a déjà tué plus d'une centaine de personnes dans une vingtaine de villages du territoire de Mombasa depuis mars 2026. Marie-Noël Anotane de la société civile du Congo.
Nous demandons aux autorités de prendre au sérieux le dossier ADF. ADF est en train de tuer. ADF est en train de saboter les efforts du gouvernement.
La société civile appelle également la population à collaborer avec les services de sécurité. Elle demande aux habitants soupçonnés de complicité avec les ADF de mettre fin à toute forme de collaboration avec ces groupes armés responsables de l'insécurité persistante dans la région. Jusqu'à présent, ni l'armée ni les autorités locales n'ont réagi à ces nouvelles attaques. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Les mois et la consternation après une fusillade meurtrière hier sur les eaux du lac Kivu, à bord du bateau La Manne du Ciel, qui relie Goma à Bukavu, des tirs attribués à un combattant du M23 ont plongé le voyageur dans la terreur à l'aube de ces samedis. Une personne a été tuée et trois autres blessés, selon un bilan provisoire. Pendant que les enquêtes se poursuivent pour comprendre les circonstances exactes de ce drame, les témoignages font état de moments de panique à bord. Récit d'une traversée qui a viré au cauchemar avec Ronnie Lintimonera.
D'après des témoignages recueillis à bord de l'embarcation, tout serait parti d'une dénonciation concernant le vol présumé d'un téléphone appartenant à un passager civil. Le téléphone aurait été subtilisé par un combattant du 123 alors que plusieurs passagers dormaient. Après avoir constaté la disparition de son appareil, les passagers se seraient tournés vers le commandant du combattant. Une fouille aurait ensuite été effectuée permettant de retrouver le téléphone caché sous les sous-vêtements du militaire. Se sentant humilié, le présumé voleur serait revenu une trentaine de minutes plus tard tard, visiblement en colère avant d'ouvrir le feu sur son commandant et des passagers à bord. Il se serait ensuite jeté dans les eaux du lac qui vous rapporte les mêmes sources. L'incident est également confirmé par des sources indépendantes au sein de la société civile. Elles indiquent que les trois personnes blessées lors de la fusillade ont été conduites aux urgences à l'hôpital général de référence de Bukavu. Entre-temps, des enquêtes auraient été ouvertes tôt ce samedi matin par les autorités de facto afin d'établir les circonstances exactes de l'incident. Par ailleurs, certains activistes informés de la situation dénoncent la présence des armes détenues par des combattants du M23 à bord d'un navire civil. Ils rappellent que les codes de navigation maritime en RDC imposeraient à tout militaire embarqué à bord d'un navire marchand de remettre son arme au commandant de bord afin qu'elle soit consignée dans un endroit sécurisé et déchargée pendant toute la durée de la traversée.
Derrière chaque victime de la guerre se cache une vie à jamais bouleversée. C'est l'histoire de Wivin Moutaka. En 2014, à seulement 17 ans, une bombe s'abat sur sa maison à Beni au Nord Kivu et lui arrache une jambe. 12 ans plus tard, il a transformé cette preuve en combat pour les autres. Grâce à l'accompagnement du CICR, il est devenu technicienne orthoprothésiste au Centre pour handicapés physiques Shirika Umoja à Goma. Aujourd'hui, son plus grand souhait est de voir la paix triompher pour qu'aucun autre innocent ne vive le drame qui a marqué sa jeunesse. Reportage de Rosalie Zawadi.
Après le drame, Wivin et ses deux parents, aussi blessés, sont pris en charge par les CICR. En voyant d'autres patients retrouver les sourires grâce à leurs prothèses, la jeune fille décide d'en faire son métier. Elle décroche une bourse du CICR pour se former durant 3 ans au Togo. Elle rentre à Goma début 2025 en pleine guerre. Chaque jour, ses patients lui rappellent sa propre histoire. Mais ce qui la touche le plus, c'est de devoir fabriquer des prothèses pour des enfants de 5 ans à peine.
C'est toujours la même histoire sur des victimes de guerre. Personnellement, mon père n'est même pas politicien. C'est un simple agronome. Juste ça. Mais voilà, sa fille n'a plus ses deux jambes. Et pour les enfants là, la plupart des parents sont des cultivateurs. Pourquoi les enfants doivent perdre leurs jambes? Pourquoi on est victime de tout ce qui se passe en RDC? Pourtant, on ne profite même pas de la richesse de notre pays. Nous, population, nous avons juste besoin de la paix. Ils peuvent se tirailler entre eux là-bas et laisser la population tranquille.
En attendant les retours de la paix, Wivin continue de se battre au quotidien pour redonner les sourires à ses patients. Par ses mots et son propre parcours, elle leur prouve que la vie ne s'arrête pas avec une amputation. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Le spectre de l'insécurité aurait fait surface à Kabombare. Face à une menace qui inquiète de plus en plus, les autorités provinciales, le maniement appellent à une réaction urgente du pouvoir central. Les activités du général autoproclamé Mayaya font craindre une nouvelle déstabilisation de cette partie de la province. Réunie en urgence, le comité provincial de sécurité a décidé de saisir le ministère de la Défense et de dépêcher une commission mixte sur le terrain. Le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema, Taylor Lawamo Selemani, explique au micro de Florence Kizalunga.
Oui, nous sommes au courant de cette incursion d'un certain Mayaya qui s'est dit être Muzalendo, venu de Nyunzu, où il fait terreur. Il a préféré, dans son esprit expansionniste, venir s'attaquer à la population du Maniema. Là, la population est en débandade et les informations que nous avons, il cherche à exploiter, à chasser les exploitants miniers pour que lui puisse accaparer comme dans ses habitudes. Et c'est comme ça que le gouverneur de province avait présidé une réunion du comité provincial de sécurité en urgence pour pouvoir suivre la situation et surtout arrêter des mesures pour l'intérêt de la population qui est en débandade ces derniers jours. Et au cours de cette réunion, il a été arrêté. Le déploiement en urgence d'une délégation mixte, assemblée provinciale, les membres du comité provincial de sécurité, y compris le membre du gouvernement provincial, pour chercher d'abord à évaluer la situation sur le terrain et arrêter des mesures de nature à éviter de telles incursions. Sinon, l'autorité provinciale est en train de faire un rapport à la hiérarchie parce qu'il s'agit d'une question de la défense nationale. Je crois qu'au niveau de Kinshasa, on va arrêter des mesures pour qu'on puisse remettre de l'ordre, surtout dans les limites de la province de Maniema.
Face à Ebola, le combat ne se gagnera pas sans le communauté. C'est le message lancé par la première ministre Judith Suminwa à Mongwalu. Alors que les autorités sanitaires poursuivent la riposte contre l'épidémie, la chef du gouvernement insiste sur un élément clé, l'adhésion des populations. Selon elle, aucun dispositif, aussi important soit-il, ne peut produire des résultats durables sans l'implication des communautés locales. Judith Suminwa s'est exprimée vendredi lors d'une rencontre avec les différentes composantes de la population. On l'écoute au micro d'Isaac Remoyopé.
Pour les communautés, ce que j'aimerais bien passer comme message, c'est que sans l'engagement communautaire, nous ne parviendrons pas à éradiquer cette maladie. Il faut absolument que les malades qui sont au sein des communautés puissent arriver le plus tôt possible à l'hôpital. Dès que vous avez connaissance de quelqu'un qui a des symptômes, même si ces symptômes peuvent être autre chose, il vaut mieux le pousser à aller dans un centre de santé. Dès que vous avez connaissance de quelqu'un qui est personne contact, il vaut mieux l'aider, lui expliquer qu'il vaut mieux aller vers le système de santé parce que c'est ça qui va permettre une meilleure prise en charge le plus rapide et pouvoir rapidement aussi donner les soins appropriés. Que au niveau des communautés, les autorités locales, les jeunes, les femmes puissent s'associer dans le cadre des relais communautaires à la sensibilisation pour qu'on ait une meilleure prise en charge. Donc c'est ensemble, avec les autorités, avec les partenaires et surtout avec la communauté que nous allons pouvoir vaincre cette maladie.
Une mobilisation qui passe aussi par le relais communautaire, car dans la lutte contre Ebola, les leaders religieux figurent parmi les voix les plus écoutées des communautés. En Ituri, une centaine de responsables ecclésiastiques des zones de santé de Bunia et de Rouenpara viennent d'être formés aux mécanismes de prévention de la maladie. Objectif, faire d'eux des ambassadeurs de la sensibilisation auprès des populations. Cette initiative est portée par l'ONG congolaise Programme de promotion de soins de santé primaire avec l'appui de l'organisation humanitaire chrétienne Tifond. Le reportage de Jean-Claude Lokidile.
Au menu, mode de transmission du virus, mesures de prévention et contrôle des infections. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur les principaux aspects de la lutte contre Ebola. À l'issue de cette formation, plusieurs leaders religieux affirment être désormais mieux préparés à sensibiliser leurs fidèles. Écoutons Régine Apendeki, l'une des bénéficiaires.
Cette formation est d'une importance capitale. À mon tour, je vais sensibiliser les autres membres de la communauté sur le respect des mesures d'hygiène, les lavages des mains après les toilettes, au retour du marché ou encore avant les repas.
Pour les organisateurs, leur proximité avec les communautés et l'influence dont certains jouissent auprès des fidèles en font des acteurs clés dans la diffusion des messages de la santé publique. Pascal Mabé, chef du projet.
Les leaders ecclésiastiques constituent des personnes influentes dans la zone. Donc, après la formation, ils sont appelés à aller sensibiliser dans leurs églises afin d'amener la communauté à adhérer aux actions de la santé publique par rapport à la riposte contre cette épidémie.
Dans un contexte de vigilance sanitaire, les organisateurs misent sur l'implication de ces responsables religieux pour renforcer la sensibilisation au sein des communautés où leur parole demeure l'une des plus écoutées. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Le compte à rebours est lancé pour l'un des plus grands projets d'infrastructure de la sous-région. La RDC, le Congo-Brazzaville, intensifie les démarches pour sélectionner l'entreprise qui construira les futurs ponts, routes, rails reliant les deux pays. Les 4 sociétés préqualifiées ont participé vendredi à une séance de clarification organisée à Kinshasa. Blaise Ondongala Mayanda nous en dit plus.
La rencontre entre les points focaux et ces 4 groupements d'entreprises s'est tenue à la salle Kampala de l'hôtel Rotana à Kinshasa. Elle a concerné les groupements CCCC et CRBC, CREC CCSCC, COVEC CREC 4 MBC ainsi que CSC et GIS STOA. Le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux a expliqué l'essence de cette démarche. Nikonza Unzaou.
Du côté Congo, 27 km qui doivent réunir Brazzaville jusqu'au niveau des sites, il est encore inaccessible. Tandis que du côté de la RD, les sites où il est accessible, c'est la raison que l'ADB les avait vus, que toutes les entreprises se sont rabattues sur la RDC pour venir visiter.
De son côté, le directeur de la Direction Générale des Grands Travaux du Congo-Brazzaville a indiqué que cette séance de clarification leur a permis de s'accorder sur plusieurs points. Oscar Otoka.
Aujourd'hui, nous avons fait donc le point avec tous les experts des deux pays, avec la CES qui est l'organe des experts et les entreprises soumissionnaires pour essayer de clarifier certaines choses.
Le projet Route Rail entre Kinshasa et Brazzaville est développé sous l'égide d'Africa 50, principal développeur mandaté pour structurer les partenariats publics-privés avec l'accompagnement financier et technique de la Banque africaine de développement BAD et de la communauté économique des États d'Afrique centrale.
Le pétrole, colonne vertébrale de l'économie congolaise, l'ambition est clairement affichée. La première conférence nationale sur les hydrocarbures a refermé ses portes ce vendredi à Kinshasa après deux jours de réflexion stratégique consacrée à l'avenir du secteur pétrolier en République démocratique du Congo, organisée par la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, en partenariat avec le ministère des hydrocarbures. Ces assises ont réuni des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, des opérateurs pétroliers, des entreprises minières, des représentants du secteur privé ainsi que des experts. Tous ont échangé autour d'un objectif commun, faire des hydrocarbures un véritable moteur de croissance, d'investissement et de développement pour la RDC. Les détails avec Paulin Munanga.
Procédant à la clôture des travaux au nom du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le directeur de son cabinet, Albert Kasongo Mukonzo, a réaffirmé que la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers constitue une priorité stratégique pour le gouvernement au regard de son impact sur l'économie nationale et particulièrement sur les secteurs miniers. Il a également rappelé que le gouvernement poursuit les réformes visant à renforcer la gouvernance du secteur pétrolier, à améliorer la stabilité du marché, à intensifier la lutte contre la fraude et à garantir un approvisionnement régulier et durable en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Albert Kasongo Mukonzo.
La configuration structurelle de notre secteur pétrolier aval démontre clairement le poids et le rôle capital de la zone sud. Les produits pétroliers s'affirment davantage comme des intrants économiques de premier ordre, soutenant les fers de lance de l'économie congolaise, notamment le secteur minier.
De son côté, le président provincial de la FECO Katanga, Patrick Mouland Kabei, a invité les participants à privilégier un dialogue constructif afin de dégager des recommandations pragmatiques susceptibles d'améliorer durablement le fonctionnement du secteur dans un esprit de collaboration entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une nouvelle page s'ouvre dans la vie politique sénégalaise. Le président Bassirou Diomaye Faye a officialisé ce samedi la création de sa propre formation politique issue de la coalition Diomaye Président. Une initiative qui marque un tournant majeur et confirme l'éloignement entre le chef de l'État et son ancien allié Ousmane Sonko, leader du PASTEF, le parti au pouvoir. Élu en 2024 avec le soutien du PASTEF et porté par une campagne menée aux côtés d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye reste officiellement membre de cette formation politique. Selon plusieurs sources, cette coalition sera désormais remplacée par un parti politique à part entière, structuré autour de la vision et du leadership du président sénégalais. Cette décision intervient dans un contexte de divergence de plus en plus visible entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Longtemps inséparables sur la scène politique, les deux hommes semblent aujourd'hui emprunter des trajectoires distinctes, ouvrant une nouvelle séquence politique au Sénégal.
L'invité.
Et si la RDC transformait l'aide extérieure en véritable moteur de développement, c'est le plaidoyer d'Idès Bald Tinamoula, expert en développement durable, scientifique et écrivain. Dans son ouvrage « L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique », exemple de la RDC, présenté jeudi à Kinshasa, il appelle une gestion fondée sur des investissements structurants capables de réduire la dépendance du pays à l'aide internationale. Selon lui, les ressources et appuis extérieurs doivent servir à construire une économie durable capable de répondre aux défis des infrastructures, de l'énergie, de l'eau et de transport. Idès Bald Tinamoula est l'invité de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Idès Bald Tinamoula.
Bonjour, monsieur.
Que retenir de l'ouvrage « Assistance technique au développement » que vous venez de présenter au public?
Le livre il s'interroge sur qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme résultat du développement de la RDC durant les 20 dernières années, donc ce que nous avons glané comme résultat avec toute l'aide que nous avons reçue. C'est une période où la RDC a reçu une aide massive entre 2001 et 2020. La RDC a reçu autour de 85 milliards de dollars d'aide contre un budget mobilisé au niveau national de 75 à peu près 75 millions de dollars. Donc en total, on a dépensé à peu près 150 milliards, 85 milliards d'aides contre 75 milliards de ressources domestiques mobilisées. Alors la question qu'on se pose, malgré cette aide massive, on constate que les pays, jusqu'en 2020, continuent toujours à faire face à des défis importants en termes d'accès à l'électricité, en termes de transport, en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès au logement, beaucoup de défis comme ça. Et donc, pourtant, toutes ces questions étaient des questions essentielles, critiques, comme prioritaires pour le développement de la RDC et pour lesquelles, effectivement, qui ont englouti d'importantes ressources de la part des partenaires. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est ça la question que je me pose dans les livres. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que moi-même, j'étais sur le terrain.
Que préconisez-vous pour capitaliser l'aide au développement?
Mon état d'esprit dans l'analyse, ce n'est pas indexer les gens, indexer les parties prenantes en disant la responsabilité incombe à tel ou à tel autre. Dans mon analyse, j'essaie plutôt de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché. Et en m'interrogeant la question pourquoi ça n'a pas marché, donc j'arrive effectivement à voir la responsabilité des uns et des autres. Et donc je vois effectivement que l'État, par exemple, a une très très grande responsabilité. Il y a eu des projets pilotes qui ont réussi. Malheureusement, les réussites restent au niveau des projets pilotes, n'arrivent pas à traverser la phase des projets pilotes pour aller à échelle. Ça veut dire qu'on atteint, avec toute l'aide qu'on a reçue, on atteint un petit nombre de bénéficiaires et on n'arrive pas à étendre les bénéfices au-delà du petit nombre de bénéficiaires. Or, pour atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires, ça c'est de la responsabilité de l'État. Mais tel que l'État est structuré, tel que l'État fonctionne, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre cette étape-là. Et donc finalement, on se limite à des projets pilotes et ça ruine un tout petit peu les investissements et tout l'effort qui a été fait.
Dans ces cas-là, vous lancez la balle là aux autorités politiques?
Bien sûr, il faut effectivement qu'on prenne conscience que l'État est responsable de la population. Trois fonctions essentielles au niveau donc de l'État. La question de la souveraineté de l'État, la première fonction essentielle de l'État, et c'est la décision souveraine. La deuxième fonction essentielle de l'État, c'est la capacité de mettre en place des institutions qui répondent aux besoins de la population. Et la troisième fonction de l'État, c'est la sécurité du territoire national et de la population. Alors, il y a une démographie importante, une explosion démographique en vue, et donc les niveaux de services publics ne suivent pas cette tendance-là démographique, parce qu'il y a un retard accumulé pendant la période qu'on vient d'analyser. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, en termes de services publics, et donc ces retards-là, aujourd'hui, porté par les gouvernants actuels. Les gouvernements actuels portent cette responsabilité-là, malheureusement, parce que ça s'est accumulé.
Quelle est la part de la population dans tout ça?
Oui, parce que la population doit comprendre aussi que l'État, c'est tout le monde. Et la population doit également abdiquer. Nous sommes une république. Une république, c'est-à-dire les populations disent nous voulons être dirigés par une autorité qui prend les décisions à notre place. Donc la population doit s'engager. Mais la population reste mobiliser et doit se mobiliser derrière les actions publiques, l'action publique, savoir respecter l'État, savoir s'engager dans les orientations publiques qui sont données, pour autant que ces orientations, bien entendu, consistent à répondre aux besoins de la population.
L'ouvrage a paru dans quelle maison d'édition et il compte combien de pages?
L'ouvrage a été publié par Harmattan. L'ouvrage contient 246 pages. En fait, pour moi, cet ouvrage, c'est beaucoup plus un compte-rendu que j'ai rendu. C'est même un devoir d'héritage en tant que citoyen. Et c'est ça, quand vous posiez la question, qu'est-ce que doivent faire les citoyens? Les citoyens doivent aussi partager leur expérience, doivent aussi se mettre à contribuer pour améliorer la société. Donc,
Monsieur Idesbal Chinamula, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, Idesbal Chinamula, expert en développement durable et auteur de l'ouvrage « L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique », exemple de la RDC. Il répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Notre rendez-vous avec l'information s'achève ici. À la présentation, Gisèle Cage, mise en onde de Jean-Claude Nsiala, coordination Jean-Désiré Kanyama, supervision Lievin Bwinga. Merci de nous avoir consacré une partie de votre soirée. Retrouvez l'actualité à tout moment sur www.radiocapi.net ainsi que sur nos plateformes numériques de Radio Capi. Très belle soirée à vous et à vos proches.